Et tout de suite, Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Premières auditions au Congrès américain dans la procédure de destitution contre Donald Trump. Les démocrates accusent le président d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour déstabiliser son adversaire Joe Biden. Grégory Phillips nous appellera de Washington dans un instant. Une marée haute historique à Venise, une aqua alta que les autorités vénitiennes attribuent au réchauffement climatique. Le reportage de Bruce de Galzin dans la cité des Doges inondée. Le dossier de la rédaction nous emmènera ce soir au Sri Lanka qui élira son président dimanche. De nombreux Sri Lankais redoutent le retour au pouvoir du clan Rajapaksa, soupçonné d'atteinte aux droits de l'homme. Un dossier signé Sébastien Farcy. En France, l'ancien ministre socialiste Pierre Joxe est visé par une plainte pour agression sexuelle. Nous verrons cela avec Antoine Maretz. Et puis, une nouvelle députée de La République En Marche claque la porte du parti présidentiel, Jennifer de Temmerman. Il y a comme un malaise au sein de l'aile gauche de la majorité macroniste, nous dira Rosalie Lafarge. C'est une étape cruciale dans la procédure de destitution visant Donald Trump. Les premières auditions publiques viennent de débuter au Congrès. Rappelons que les démocrates soupçonnent le président américain d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour obtenir l'ouverture d'une enquête contre Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama est considéré comme son plus sérieux rival dans la course à la Maison-Blanche dans un an. Le Congrès américain qui a donc commencé tout à l'heure à entendre certains témoins clés dans cette affaire ukrainienne. Le reportage à Washington de Grégory Phillips.
William Taylor, l'irréprochable diplomate qui a servi tous les présidents américains, depuis Reagan, qu'il soit républicain ou démocrate, se lève, prête serment et jure de dire toute la vérité. L'actuel chargé d'affaires en Ukraine, nommé par le secrétaire d'État Mike Pompeo, évoque alors sa découverte d'une diplomatie parallèle. Il y avait une diplomatie officielle et non officielle. Elle était dirigée par Kurt Volker, le représentant spécial pour l'Ukraine, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mulvaney, et l'avocat du président, Rudy Giuliani. Puis il raconte comment l'aide militaire américaine, 400 millions de dollars, a été suspendue à l'ouverture d'une enquête par le pouvoir ukrainien sur la firme gazière Burisma, qui à l'époque employait le fils de Joe Biden. J'ai écrit que retenir cette aide militaire en échange d'une aide dans une campagne électorale américaine serait une folie. Je le pensais alors, je le pense encore. Bill Taylor avait déjà livré ce témoignage à huis clos, mais là l'audition est publique et diffusée en direct par quasiment toutes les chaînes de télévision américaine. Les démocrates espèrent que cela permettra de faire basculer l'opinion publique. Donald Trump, lui, est à la Maison-Blanche. Son service de communication fait savoir qu'il a des réunions de travail et qu'il ne regarde pas ses auditions au Congrès.
Et Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. Les Italiens parlent d'une aqua alta historique. Une marée haute d'une ampleur exceptionnelle s'est répandue depuis hier soir dans Venise. La place Saint-Marc est sous les eaux et l'épisode a déjà fait une victime, un homme de 78 ans électrocuté en actionnant une pompe dans son logement inondé. Les autorités vénitiennes attribuent cette aqua alta sans précédent à l'accélération du réchauffement climatique. Le reportage à Venise de notre envoyé spécial Bruce de Galzin.
La place Saint-Marc a retrouvé sa splendeur. Le soleil a même brillé cet après-midi et l'eau s'est évacuée petit à petit. Mais hier soir, Denise était au restaurant avec ses amis lorsque le patron a décidé de les évacuer.
Ils nous ont demandé de partir à 10h du soir parce qu'ils ont dit « ça monte, vous avez déjà de l'eau aux genoux, partez, partez ». Effectivement, on avait de l'eau à mi-cuisse. On comprend enfin qu'est-ce que ça veut dire, Venise commence à s'immerger.
Et cette situation, Clara ne l'accepte pas. Elle a 21 ans, elle étudie à l'université de Venise et a choisi de passer sa journée à ramasser les déchets remontés à la surface en raison de la marée exceptionnelle.
La ville est vraiment tombée à genoux et c'est pour ça que je donne un coup de main, parce que la ville en a bien besoin. L'année dernière, il y a déjà eu un autre record, mais cette année, on est arrivé à seulement 7 cm du record de 1966.
Les commerçants, eux, sont habitués mais supportent mal le fait que rien ne soit fait pour éviter les inondations désormais récurrentes. Les autorités ont tenté de s'en expliquer lors d'une conférence de presse à laquelle a aussi participé le patriarche catholique de Venise, Monseigneur Morelia, et qui lui aussi a demandé de l'argent.
Venise est une ville blessée qui ne peut pas être blessée chaque année de la même manière. C'est une ville unique et elle a besoin d'efforts financiers au niveau national comparé à d'autres villes.
Et le patriarche a annoncé que la basilique avait subi des dommages énormes, peut-être irréversibles, et des dommages encore incalculables selon le maire de la ville.
Bruce de Galzin, envoyé spécial de France Culture à Venise. La Commission européenne a décidé d'infliger une amende record à la Hongrie de Viktor Orban, plus d'1 milliard d'euros. Bruxelles sanctionne Budapest pour de multiples irrégularités dans la gestion des fonds européens qui lui sont alloués. Cela fait plusieurs années en fait que la Hongrie est dans le collimateur de l'OLAF, l'Office européen de lutte contre la fraude. C'est une correspondance à Budapest de Florence Labruyère.
C'est une amende salée que la Hongrie va devoir payer pour sa mauvaise gestion des fonds européens. L'amende représente 2% du produit intérieur brut de la Hongrie. Après une enquête approfondie, la Commission européenne a relevé de graves irrégularités dans la gestion des fonds européens par différents États membres. Pour la seule année 2018, l'exécutif européen a identifié une trentaine de projets problématiques, dont un tiers de dossiers hongrois. Absence de mise en concurrence, appel d'offres taillé pour une seule entreprise, projet surfacturé. Les projets financés par l'argent communautaire ne respectent pas les règles européennes. Résultat, dans certaines régions hongroises, on a construit des pistes cyclables qui ne mènent nulle part et des établissements sportifs qui n'existent que sur le papier. Le plus bel exemple de détournement de fonds, car c'est bien de cela qu'il s'agit, ce sont ces tours pour observer les oiseaux, financés dans le cadre d'un projet de développement touristique. Les tours ne font que 11 cm de hauteur. Le gouvernement hongrois a accepté de payer l'amende forfaitaire imposée par la Commission. En général, l'État membre avance la somme allouée par Bruxelles, qui rembourse ensuite sur justificatif. C'est donc plus d'1 milliard d'euros qui ne sera pas remboursé à la Hongrie. Le pays reste toutefois un grand bénéficiaire des fonds européens. Entre 2014 et 2020, ce sont 25 milliards d'euros qui ont été alloués à la Hongrie.
Florence Labruyère, notre correspondante en Hongrie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décidé de donner un nouvel intitulé au portefeuille de commissaire aux migrations. Il n'est plus question de protection du mode de vie européen, mais de promotion de ce mode de vie européen. Un changement salué par la gauche et les écologistes du Parlement européen. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir au Sri Lanka. Les Sri Lankais élisent leur nouveau président ce samedi 16 novembre. Et parmi les 35 candidats, un homme est favori. C'est Gotabaya Rajapaksa, frère de l'ex-président Mahinda Rajapaksa. Ce militaire de carrière était secrétaire d'État à la Défense à la fin de la guerre contre les tigres tamouls. Un profil rassurant après les attentats antichrétiens du dimanche de Pâques qui avaient fait 258 morts. Mais quand il était au pouvoir, le clan des Rajapaksa a également réprimé la société civile. Il aurait fait enlever voire tuer des opposants, qu'ils soient militants des droits de l'homme ou bien journalistes. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont terrifiés à l'idée de voir revenir les Rajapaksa au pouvoir. Le reportage de notre envoyé spécial au Sri Lanka, Sébastien Farsi.
La petite esplanade de la ville de Nathandia, dans l'ouest du Sri Lanka, est remplie de monde. Quelques 200 personnes debout sous le soleil tropical applaudissent un homme à la forte carrure et à la chevelure poivre et sel. C'est Gotabaya Rajapaksa. Ce candidat à la présidentielle était le secrétaire d'État à la Défense pendant la présidence de son frère Mahinda et il a donc contribué à la victoire militaire contre la rébellion des tigres tamouls en 2009. Aujourd'hui, une nouvelle menace est apparue avec les attentats terroristes du dimanche de Pâques et ce militaire de carrière affirme qu'il peut à nouveau sécuriser le Sri Lanka.
Sous la direction de Mahinda Rajapaksa et grâce à l'armée, nous avons libéré le pays. Et cette liberté a ensuite été préservée grâce à des protocoles de sécurité inviolables. C'est pour ça qu'aucun attentat n'a eu lieu pendant notre mandat. Mais ce gouvernement, lui, n'a jamais accordé de priorité à la sécurité nationale. Et le terrorisme a refait surface. Quand nous reviendrons au pouvoir, nous rétablirons la sécurité dans ce pays.
Ashoka Ginigé sort de ce meeting relativement convaincu. Ce trentenaire a pourtant voté pour le président sortant Maithripala Sirisena en 2015. Mais aujourd'hui, il est déçu.
Les dettes ont augmenté, notre niveau de vie a baissé et ma foi pour ce gouvernement a totalement disparu après les attentats de Pâques. Donc aujourd'hui, je veux voir revenir les Rajapaksa.
Dans le quartier de Kochikade, au centre de Colombo, cette défiance envers le gouvernement est encore plus marquée, car c'est ici qu'a explosé l'une des 6 bombes le 21 avril dernier. Elle a sauté dans l'église de Saint-Antoine au moment de la messe du dimanche de Pâques, tuant 54 personnes. L'une des victimes était le beau-frère de Clinton Anthony, un catholique tamoul qui ne sait pas encore pour qui il va voter.
Tous les politiciens font les mêmes promesses. Ils utilisent la douleur des victimes des attentats pour remporter des votes. Gotabaya était secrétaire d'État à la Défense, mais ce n'est pas lui qui a tout fait. Quand on devient président, c'est différent. Il devra prouver comment il peut sécuriser le pays.
Gotabaya Rajapaksa est le favori de cette présidentielle et il promet donc de rétablir l'ordre au Sri Lanka. Oui, mais beaucoup le craignent également. Car au nom de cette sécurité nationale, le clan des Rajapaksa a été accusé d'enlever, voire de tuer des militants et des journalistes pendant leur mandat précédent. Des personnes comme Pragit Eknaligoda. Ce journaliste opposé au Rajapaksa a disparu il y a 9 ans. Sa femme, Sandhya, a déposé plainte contre 11 militaires.
Un officier de l'armée a témoigné que mon mari a été emmené dans un camp par les services de renseignement sur ordre de Gotabaya Rajapaksa. Cet homme est un démon. Donc s'il est élu, il ne nous laissera pas tranquilles. J'ai peur pour moi et mes enfants, mais je n'arrêterai pas ce combat.
10 autres personnes ont déposé plainte pour torture aux États-Unis contre Gotabaya Rajapaksa.
Sébastien Farsi, envoyé spécial au Sri Lanka. C'était il y a 4 ans, les attaques islamistes de Paris et Saint-Denis, 130 morts et 350 blessés, tombés sous les balles et les bombes d'un commando djihadiste de l'État islamique. Comment mieux aider les victimes d'attentats? Où en est l'aide aux victimes? Des questions que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat après ce journal. C'est une information du journal Le Monde, confirmée de sources judiciaires. L'ex-ministre socialiste Pierre Joxe est visé par une plainte pour agression sexuelle, plainte déposée par une ancienne employée à domicile. Il y a 2 ans, en plein mouvement MeToo, Pierre Joxe avait déjà été mis en cause par l'écrivaine Ariane Fornia. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir.
Que sait-on ce soir de cette plainte contre Pierre Joxe?
Eh bien, selon Le Monde, elle est le fait d'une femme de 40 ans, une employée à domicile haïtienne qui s'occupait de la femme de Pierre Joxe, décédée en janvier dernier. Elle a travaillé au domicile des Joxe entre septembre 2017 et décembre 2018 jusqu'à son licenciement. Elle accuse l'ancien ministre de l'avoir agressée sexuellement en 2018 à plusieurs reprises. Elle aurait déposé une main courante en juillet 2018. Elle a finalement porté plainte hier pour agression et harcèlement sexuel. Ces accusations surviennent à quelques jours d'une audience prévue lundi. Le tribunal de Paris doit se prononcer sur une plainte en diffamation déposée par Pierre Joxe contre Ariane Fornia. En octobre 2017, la jeune femme avait accusé l'ancien ministre de l'Intérieur de l'avoir agressée sexuellement lors d'une représentation à l'Opéra. En mars 2010, elle n'avait pas pour autant porté l'affaire en justice, les faits étant prescrits. Pierre Joxe avait alors dénoncé, je cite, un tissu de contre-vérité. Le Monde a obtenu la réaction de Pierre Joxe après cette nouvelle accusation. L'homme de 84 ans dément une fois de plus. « Je ne me suis jamais livré à ce genre de choses sur personne contre sa volonté », se défend-il, tout en dénonçant une manipulation. Son avocat ajoute « Mon client conteste fermement ces accusations et il apportera la preuve que tout cela est faux. »
Antoine Marette, merci. Justice toujours, avec cette fois Patrick Balkany. Le maire de Levallois-Perret reste en prison. La cour d'appel de Paris a rejeté ce matin sa deuxième demande de mise en liberté. Patrick Balkany, incarcéré depuis 2 mois après plusieurs condamnations pour fraude et blanchiment. Dans un premier temps, la justice lui avait accordé une première demande de libération, sous réserve du versement d'une caution de 500 000 euros. Une somme que le maire de Levallois n'a toujours pas réussi à réunir. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
Le président de la Cour d'appel de Paris a estimé que la deuxième demande de mise en liberté de Patrick Balkany n'était pas fondée.
Oui, une demande recevable sur la forme, mais non fondée et donc rejetée, a indiqué le président de la Cour sans détailler les motivations de son arrêt. Mais selon les avocats de Patrick Balkany, son maintien en détention est décidé pour éviter la concertation avec des complices, notamment son fils qui va le voir en prison, ironise Éric Dupond-Moretti, tout en faisant part de sa totale incompréhension, d'autant que la même Cour d'appel avait fait droit à la première demande de mise en liberté. Elle avait ordonné un contrôle judiciaire très strict, tout en estimant que Patrick Balkany présentait des garanties suffisantes de représentation pour comparaître au procès en appel prévu fin décembre. Il s'agit en l'occurrence du volet fraude fiscale où seuls les époux Balkany étaient jugés. C'est d'ailleurs bien la principale différence avec le second volet de l'affaire, la partie blanchiment de fraude fiscale où le couple Balkany comparaissait aux côtés de 4 autres prévenu. Ce matin, le président de la Cour a fait référence à l'article 144 du Code pénal. Il indique, entre autres, la possibilité d'un maintien en détention pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne concernée et ses coauteurs ou complices. Dans ce volet-là aussi, il y aura un nouveau procès dont on ne connaît pas encore les dates, mais qui devrait se tenir rapidement compte tenu du maintien en détention du maire de Levallois. Ses avocats vont déposer une nouvelle demande de mise en liberté, mais également une demande de modification du contrôle judiciaire. Elle vise précisément ce cautionnement de 500 000 euros, somme que Patrick Balkany n'a pas réussi à réunir malgré la cagnotte lancée à Levallois. Quelques 50 000 euros récolté qu'Isabelle Balkany s'est engagée à rendre au comité de soutien.
Florence Thur, merci. On ouvre une page politique dans ce journal pour évoquer une nouvelle défection dans les rangs de la majorité. Jennifer de Temmermann, députée LREM du Nord, annonce son départ du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Elle conteste la décision du gouvernement de restreindre l'accès à l'AME, l'aide médicale d'État réservée aux étrangers sans papier. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Cette défection ne traduit pas une hémorragie au sein de LREM, mais un véritable malaise, surtout au sein de l'aile gauche du parti majoritaire.
Et oui, parce que pour les députés de l'aile gauche, LREM, c'était une promesse, celle du renouveau, celle du en même temps, celle du et de droite et de gauche. Sauf qu'aujourd'hui, on est plutôt et de droite, sifflent des élus de la majorité. Une ligne qui a poussé la députée Aïna Curic vers la sortie au mois de juin.
Là où il y a un malaise, en tout cas pour ma part, c'est sur les questions d'immigration, notamment l'AME, hein, l'aide médicale d'État, la demande d'asile. Ce sont toutes ces mesures-là finalement qui font qu'aujourd'hui on a des collègues qui ne se sentent pas en phase avec l'image que nous souhaitons donner aux autres de notre pays.
Il n'y a pas que les questions d'immigration qui fâchent, celles de laïcité aussi, d'économie parfois. Et puis les investitures pour les municipales génèrent encore quelques crispations. Et même s'il reste à La République En Marche, Jean-François Cesarini dresse un constat assez clair.
On le sait, hein, il y a un gouvernement plutôt de droite et une majorité législative plutôt de gauche, donc ça fait pas mal de frictions et évidemment, tôt ou tard, ça peut aussi provoquer des scissions.
Mais pour le député François Cormier-Bouligeon, partir du parti est une erreur.
Nous devons trouver les bons réglages au sein même du groupe, peut-être améliorer la démocratie au sein du groupe, améliorer les relations avec le gouvernement et nous devons petit à petit aller vers une meilleure co-construction des réformes. Moi je plaide pour cela et je plaide à l'intérieur de la majorité.
Même si pour l'instant l'écrasante majorité des déçus continue de plaider de l'intérieur, le nombre de députés En Marche baisse, 313 au départ, 10 de moins aujourd'hui. La majorité dont jouit l'exécutif à l'Assemblée est toujours absolue, mais jusqu'à quand ?
Rosalie Lafarge, merci. À droite, les Républicains joue gros aux prochaines élections municipales et notamment à Marseille. LR compte bien garder la deuxième ville de France. Encore faut-il trouver un successeur au maire sortant Jean-Claude Gaudin qui ne se représente pas. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Deux candidats sont en lice pour défendre les couleurs de LR à Marseille. Une réunion est en cours à Paris pour trancher la question.
Oui, alors a priori, rien ne sera tranché à l'issue de cette réunion puisqu'il s'agit essentiellement de réunir autour d'une même table des gens qui ne se parlaient plus depuis des mois. Pour résumer, il y a deux candidats à droite à la succession de Jean-Claude Gaudin. Il y a celle qui fait figure de successeur désigné, Martine Vassal, actuellement présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole de Marseille. Elle a été installée à la tête de l'agglomération par Jean-Claude Gaudin. Et puis, il y a l'un des anciens lieutenants du maire sortant, Bruno Gilles. Il a été maire d'arrondissement, actuellement il est sénateur. Il affirme qu'on lui avait promis que ce serait son tour et dit vouloir se maintenir, quelle que soit la décision prise au niveau national. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que derrière Bruno Gilles, il y a le véritable adversaire de Martine Vassal, celui qui un temps a fait figure de dauphin de Jean-Claude Gaudin et qui dirige actuellement la région Sud, ex-région PACA. Il s'agit de Renaud Muselier. Il redoute que Martine Vassal prenne trop de pouvoir et lui fasse de l'ombre dans les années à venir. Et sa digue politique, eh bien, c'est l'actuel sénateur Bruno Gilles. Pour compliquer encore un peu plus le jeu politique, il faut savoir que Renaud Muselier est un très proche de l'actuel président de Les Républicains, Christian Jacob. Ils se connaissent depuis 30 ans, puisqu'ils faisaient tous les deux partie de la toute petite équipe qui a porté Jacques Chirac à l'Élysée en 1995. On navigue donc là en eau trouble. Il y a de vieilles fidélités qui viennent percuter des enjeux locaux et nationaux, auquel il faut ajouter le bilan contesté de l'équipe sortante, notamment après le drame de la rue d'Aubagne. Tout ça fait du marigot marseillais un drôle de bazar et une succession bien compliquée à gérer pour les Républicains.
Stéphane Robert, merci. La disparition de l'éternel second du cyclisme français, Raymond Poulidor, est mort ce matin à l'hôpital de Saint-Léonard de Noblat, dans son Limousin natal, à l'âge de 83 ans. En 17 ans de carrière, Raymond Poulidor n'aura jamais porté le maillot jaune du Tour de France. Mais ses duels légendaires avec Jacques Anquetil et Eddy Merckx auront marqué l'histoire du sport français des années 60 et 70. Le temps demain aura une coloration hivernale. La neige tombera à très basse altitude sur la moitié Est. Trois départements sont en vigilance orange, neige et verglas, la Drôme, l'Isère et l'Ain. Ailleurs, c'est un ciel pluvieux qui dominera, température minimale entre 0 et 10 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 5 à 17 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Julien Loquet.